Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Sonia Backès, la présidente de la Pointe Sud et chef de file des loyalistes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, votre actualité, c'est notamment la situation budgétaire de la Pointe Sud, mais nous parlerons bien sûr aussi plus largement de l'actualité politique qui reste, elle aussi, extrêmement dense. Alors, hier, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, vous avez dressé un tableau apocalyptique de la situation. La province est confrontée à une perte de recettes de 31%, quelque 18 milliards. Vous allez être obligé de faire des coupes drastiques. D'abord, comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est une conséquence directe des émeutes du 13 mai?
Oui, c'est une conséquence directe des émeutes du 13 mai, puisqu'en fait, avant le 13 mai, la province Sud était dans une situation financière très saine. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez qu'on subit depuis des années la clé de répartition avec 50% des recettes qui sont versées à la province avec 75% de la population. Mais malgré cette difficulté, on avait fait tous les efforts nécessaires de suppression de postes, d'économies, etc. pour arriver dans une situation qui était particulièrement saine et reconnue comme telle par tous ceux qui ont à donner un avis sur le sujet. Le 13 mai, suite aux actions extrêmement violentes de la CCAT, tout s'est effondré, et en particulier, pour ce qui concerne la province Sud, l'économie. Et donc, les conséquences de ça, c'est une chute drastique des recettes fiscales, donc des recettes qui sont distribuées à l'ensemble des collectivités, puisque ça rentre à la Nouvelle-Calédonie et c'est distribué dans toutes les collectivités. Concrètement, pour la province Sud, c'est en estimation, en année pleine, telle qu'on va finir l'année 2024, une baisse des recettes de 31%. Ça n'est jamais arrivé. Pour être très concrète, c'est un retour au niveau de recettes qu'on avait en 2004. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on a pris un choc temporel de 20 ans d'un seul coup à cause des actions violentes de la CCAT.
Alors comment est-ce qu'on compense ce genre de choses? Ça paraît impossible. Vous demandez l'aide de l'État pour compenser notamment ces pertes fiscales. C'était un élément qui avait été évoqué. Hein.
Oui, c'est tout simplement impossible. Et c'est pour ça qu'on a voulu hier faire l'exercice un peu théorique de voir ce qu'on devrait enlever si on devait trouver ces 17,8 milliards. D'abord, je considère, et c'était partagé par l'Assemblée hier, que l'État porte une responsabilité, non pas dans ce qui s'est passé le 13 mai, c'est clairement la responsabilité de la CCAT, mais l'État porte une double responsabilité. La responsabilité de ne pas avoir mis assez de forces de l'ordre le 13 mai, ce qui fait que là où on aurait peut-être eu que quelques dizaines de millions de dégâts, on a eu 2 milliards de dégâts, parce qu'il n'y avait pas les forces en face pour combattre les actions violentes de la CCAT, et d'autre part une responsabilité financière, parce que nous avons décidé par trois fois de rester un territoire de la République, et qu'à ce titre, l'État ne peut pas nous laisser ce territoire de la République s'effondrer économiquement comme il est en train de s'effondrer. Donc l'État porte la responsabilité aujourd'hui de faire le nécessaire pour que la liste à la Prévert que j'ai faite hier en Assemblée de province,
oui,
l'exercice qui veut se poser la question de concrètement, on a 18 milliards à trouver, comment on fait? Eh bien, en fait, ça veut dire que la décision qu'on devrait prendre le 5 décembre prochain à l'Assemblée de la province Sud pour arriver à rentrer dans les clous, bah, c'est des décisions impossibles. Fermer les dispensaires, arrêter toutes les bourses scolaires, fermer tous les parcs provinciaux, arrêter tous les renouvellements de postes, donc des gens qui partent à la retraite. Ça veut dire que petit à petit, en fait, on vide toutes les actions de la province, mettre des classes à 30 élèves ou à plus de 30 élèves parfois. Ça veut dire qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Arrêter tous les emplois d'insertion, arrêter toutes les associations, toutes les subventions pardon, aux associations, pas seulement sociales, mais culturelles, jeunesse. En fait, c'est l'effondrement de la Nouvelle-Calédonie.
Oui, c'est pour ça que je parlais d'un tableau apocalyptique. Certains disent que ça aboutirait à une tiers-mondisation de la Calédonie.
Quoi. Oui, c'est le cas, parce que j'ai pris cet exemple-là en réunion, mais j'ai été très, très alertée par les gens qui sont dans les écoles, les directeurs, les enseignants, qui me disent, avant le 13 mai, on avait quelques dizaines d'enfants qui arrivaient, qui avaient comme seul repas le repas de midi, parce que ce repas de midi, il est payé par la province. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines d'enfants chaque semaine qui, en fait, ne mangent que le midi parce que ce repas-là, il est pris en charge et qu'ils peuvent manger à ce moment-là. Mais si on arrête les bourses scolaires, et c'est 1,2 milliard, donc ça fait partie des 17,8 milliards. C'est pas la liste que j'ai faite, c'est pas on choisit et puis on prend. Non, c'est en fait, il faut faire tout ça. Et j'ai oublié un élément majeur d'ailleurs, c'est une baisse de l'investissement de 75%. Ça veut dire que c'est 9 milliards en moins pour les entreprises calédoniennes en plus en matière de BTP et de TP. Mais pour revenir à la question des bourses scolaires, c'est la tiers-mondisation. Quand on va enlever les bourses scolaires à des gamins qui n'ont que ça pour manger, c'est quand même une vraie catastrophe.
Alors, l'État, pour l'instant, n'a pas répondu. Pour quelle raison, selon vous ? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas les moyens, il est dans une situation financière catastrophique, ou parce qu'il attend des réformes de la part de la Calédonie, il pose des conditions
Non, il s'est passé deux choses. À la limite, ce serait plus compréhensible s'il nous disait, en gros, tant que vous vous êtes mis, pas mis autour de la table pour trouver un accord, on vous fait du goutte à goutte. Mais c'est même pas ça. C'est pire que ça, c'est plus triste que ça. C'est qu'en fait, bon, d'abord, pendant 5 mois, on a eu une absence de pouvoir avec les Jeux Olympiques, la dissolution, le pas de gouvernement, enfin pas de Premier ministre, puis pas de gouvernement, le temps de la prise en charge, etc. Donc une vacance politique. Et la nature ayant horreur du vide, c'est Bercy qui a pris le pouvoir. Donc Bercy a pris la main sur les décisions. Et alors Bercy, c'est des petits hommes gris en costume dans un grand bâtiment qui regardent la Nouvelle-Calédonie de loin et qui sont capables de dire des choses du style « Le 31 décembre, donc dans 6 jours, on arrête les navettes du Mont d'Or parce que c'est bon, la route est sécurisée. »
31 octobre.
31 octobre, pardon. Donc dans 6 jours, on arrête les navettes, on arrête de payer les navettes parce que c'est bon, la route elle est ouverte et sécurisée. Mais moi, j'invite les petits hommes gris de Bercy à venir traverser la route de Saint-Louis tous les jours. Et puis, ils vont comprendre qu'on est quand même un peu obligé de continuer les navettes.
Vous accusez Bercy d'être le fossoyeur de la Nouvelle-Calédonie. C'est sévère, quand même.
Oui, mais c'est la réalité. Je me suis tue pendant longtemps, vous savez, Elisabeth, parce que je considère que la négo doit être privilégiée à ce genre de déclaration. Mais on mène des négociations impossibles. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Bercy, bon, je vous ai parlé des navettes, mais... Bercy demande au président du gouvernement, en échange de la dernière aide qui doit arriver en cette fin d'année, d'augmenter la fiscalité de plusieurs milliards, voire de plus de 10 milliards. Mais comment les Calédoniens vont payer plusieurs milliards de fiscalité en plus alors qu'ils sont en train de s'effondrer ? Comment ? Et donc, c'est Olivier Sudry, qui est un économiste que chacun connaît, qui a dit... La maison Calédonie brûle et c'est le moment où Bercy décide de relever les compteurs d'eau. C'est exactement ça, quoi.
Pourtant, donc... dans un premier temps, on avait eu l'impression qu'avec Bruno Le Maire, notamment, les choses allaient bien.
Mais
il y avait des contacts directs. C'est pas le ministre qui est en cause.
Non, c'est pas le ministre qui est en cause parce qu'en fait, le ministre et pas que Antoine Armand, que j'ai eu l'occasion de voir, mais également le ministre des Outre-mer, qui, je crois, a été... particulièrement saisi de la situation en Calédonie, qu'il a dit à l'Assemblée, qu'il a dit au Sénat, qu'il a dit dans la presse nationale, qui a pris conscience de la gravité de la situation. Eux nous ont fait des annonces et ont pris des engagements très clairs pour aider la Nouvelle-Calédonie. Mais je vais vous prendre un exemple du dysfonctionnement et de la mauvaise foi de Bercy. Le ministre de l'économie, Antoine Armand, le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, ont annoncé un prêt de l'AFD garantie par l'État de 500 millions d'euros, 60 milliards. Waouh ! Alors, d'abord, c'est un prêt, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en plus, quand on lit le projet de loi de finances, ben en fait, ce n'est pas 500 millions d'euros, c'est 500 millions d'euros moins ce qui a été déjà versé à la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire plus de 400 millions d'euros. En gros, il reste 60 millions d'euros. Donc en fait, Bercy ment même à ses propres ministres en leur faisant faire des annonces.
François-Noël Buffet l'a découvert lui
mais
aussi.
Mais je pense de bonne foi. Et donc, je considère que Bercy se trompe de combat. La Nouvelle-Calédonie, une fois qu'elle sera effondrée, elle coûtera beaucoup plus cher que ce qu'elle coûte si on arrive aujourd'hui à la sauver. Donc, voilà, j'ai lancé un cri d'alerte qui a été soutenu de manière unanime par l'Assemblée hier. J'ai des échanges réguliers toutes les nuits avec les responsables politiques parisiens actuels. Qui eux aussi, parce que la réalité, c'est qu'en fait, eux aussi prennent conscience des difficultés qu'on peut avoir avec Bercy quand on nous dit « vous n'avez qu'à mettre 50 élèves par classe ». Enfin, soyons sérieux.
Et alors donc voilà, on contourne le problème éventuellement en passant directement par les circuits politiques, par le président de la République, par les présidents des assemblées qui arrivent dans une quinzaine de jours. Eux, ils peuvent en revanche essayer de débloquer le dossier, de passer au-dessus de Bercy ou c'est impossible ?
Alors, je ne crois pas que les présidents d'Assemblée viennent pour ça. Je pense que c'est vraiment le ministre des Outre-mer, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances, avec lesquels on travaille. Et je pense que mon cri d'alerte est utile, finalement, pour tout le monde. Parce que je parle de la province sud, parce que le débat était là. Mais La mairie de Nouméa a des problèmes. Les mairies de l'agglo, d'ailleurs, ont des problèmes. Des arriérés pas payés, etc., et des difficultés. Le gouvernement aussi. Donc, en fait, on est tous concernés. Ce cri d'alerte, je pense qu'il va servir à tout le monde. Mais je ne pense pas que les présidents d'Assemblée viennent pour ça. Parce que qu'est-ce qu'aujourd'hui les Calédoniens attendent, concrètement ? Ils attendent, pour les entreprises qui ont été brûlées ou pillées, ils attendent les assurances. Les assurances qui, pour certaines, ne jouent clairement pas le jeu. On n'a que 15% de remboursement à ce stade sur tout ce qui doit être remboursé. On a un vrai gros problème de réassurance, c'est-à-dire que ceux qui veulent bien reconstruire, ben on leur dit soit pas de clause émeute, soit pas de clause émeute, pas de clause incendie, soit pas de réassurance du tout. Donc là, les banques disent ben non, mais nous, on ne vous prête pas si vous n'avez pas de réassurance. Donc ça, c'est un vrai gros problème. Mais on a aussi tous les autres qui n'ont pas brûlé, n'ont pas été pillés, mais ont une baisse de chiffre d'affaires significative et qui attendent un signal de confiance pour savoir s'ils continuent ou s'ils arrêtent. S'ils continuent à puiser dans leurs réserves, qui commencent quand même pour certains à être sérieusement basses, voire certains ont décalé leurs échéances et arrivent au bout du décalage des échéances, ils attendent quoi ? Ils attendent une capacité de croire dans le fait qu'on va pouvoir reconstruire et qu'on peut croire dans l'avenir en Nouvelle-Calédonie. Donc je crois que la visite du président de l'Assemblée, du président du Sénat, moi j'ai dit publiquement, vous savez, nous on s'en fout du grade des uns et des autres, hein, du moment que on va pas voir tout le monde débarquer à notre chevet et regarder à quel point la Nouvelle-Calédonie est malade. Ce qu'on veut, c'est des gens qui nous proposent des soins maintenant et pas des soins palliatifs une fois qu'on sera à moitié mort. Donc je pense que Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet ont une mission, s'ils doivent en avoir une, en tout cas vu de mon prisme, c'est de redémarrer le dialogue et de donner un calendrier et une méthode claire pour qu'on règle le problème. Et là-dessus, je me suis exprimée quand on a passé la modification de la loi organique sur le report des élections, j'imagine qu'on va y revenir, pour dire qu'aujourd'hui, on a deux gros problèmes. Un, l'État qui n'a rien fait pendant 5 mois, donc maintenant il faut que l'État prenne les choses en main. Est-ce que c'est le président de l'Assemblée, la présidente du Sénat ? Est-ce que c'est le ministre des Outre-mer ? Est-ce que c'est le Premier ministre ? Est-ce que c'est le président ? Vous savez quoi ? Nous, ça nous est égal. Hein.
Ils veulent tous s'en occuper.
Oui, mais enfin, vous savez quoi ? Nous, pour l'instant, on n'a personne qui s'en occupe vraiment. On n'a pas de méthode, on n'a pas de calendrier. Donc, quand il y en a un qui s'en occupe, et puis qu'on nous apporte des solutions. Donc, il y a ce problème-là. Bon, très bien. Imaginons que Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet mettent ce calendrier, cette méthode, et arrivent à proposer des solutions. Et le deuxième gros problème qu'on a, c'est l'absence de volonté et de sincérité de la part de l'Union calédonienne, qui est tenue par la CCAT. On a un retour 2 ans et demi en arrière. Quand je lis les communiqués de presse de l'Union calédonienne, des uns et des autres, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « on veut parler qu'avec l'État », donc excusez-moi, mais ça veut dire bilatéral. Je fais un retour en arrière de 2 ans quand Gérald Darmanin a commencé à s'occuper du dossier, petit 1. Et petit 2, on veut parler que de la trajectoire de souveraineté. Donc en gros, retour 2 ans en arrière, on veut parler que de l'indépendance. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Union calédonienne, et là, qui a organisé la CCAT, a fait ça pourquoi ? Avec quel message ? Avec un message qui était « rentrez chez vous », un message raciste, anti-blanc. Donc le message, c'est « on voulait vous faire dégager, là maintenant, on ne veut pas parler avec vous, et en plus, on veut bien parler avec l'État, mais que du projet » qui concerne la moitié ou moins de la moitié de la population. Le reste, ça n'existe pas. Mais sur ce territoire, il y a 2 légitimités, il y a 2 points de vue qui s'opposent, il y a 2 visions de la société différentes, et ni les uns ni les autres n'ont envie de l'abandonner. Donc la question qui se pose maintenant aux partenaires, et il y a une vraie différence entre la vision qu'a aujourd'hui l'UNI, qui reste indépendantiste, personne ne leur enlèvera leur conviction, mais qui disent « Ok, on veut bien parler avec tout le monde parce qu'effectivement, il y a une autre vision de la société et qu'on est obligé de partager avec tout le monde. » Et l'UC qui dit « Non, non, ça n'existe pas. Il y a notre projet et puis c'est tout. Ben, » ça ne peut pas exister comme ça. Ça s'appelle du séparatisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'on veut couper de la République et qu'on considère que tout le reste, ça n'existe pas, c'est d'abord du communautarisme, ensuite du séparatisme.
Alors comment est-ce qu'on contourne ça ? Déjà, ils ont été reçus par... ils ont tous accepté de rencontrer le ministre des Outre-mer, c'est peut-être un progrès, entre guillemets. Est-ce que ça a permis une avancée ou non ? Et vous les rencontrez au congrès la semaine dernière, à l'Assemblée provinciale. Que disent ces indépendantistes ? Est-ce qu'ils ont conscience déjà que, qui sont en partie responsables de la situation quand même. Est-ce que, est-ce qu'ils font le lien entre ce qui s'est passé le 13 mai et la situation apocalyptique de la Calédonie ?
Non, c'est parfois très déstabilisant d'ailleurs, parce que individuellement, chacun d'abord n'est pas responsable et déplore ce qui s'est passé. Chacun dit qu'en fait, il va falloir qu'on discute entre nous. Et chacun dit qu'il n'y a pas de problème, en fait, que tout ça va bien se passer. Vous dites que la visite, enfin, le fait qu'ils aient été voir le ministre des Outre-mer est une évolution. Non, ça va dans le sens de ce qu'ils ont toujours dit, c'est-à-dire qu'ils acceptent de parler avec l'État, puisque c'est avec l'État qu'ils ont un contentieux. Et en fait, individuellement, il n'y a pas de difficulté, sauf que quand on regarde l'émotion ensuite de l'UC ou du FLNKS, qui est aujourd'hui la même chose, puisque le PALIKA et l'UPM ont suspendu leur participation, bah ça n'avance pas, ça ne bouge pas d'un iota. Donc, soit il y a une hypocrisie quand ils nous parlent à nous individuellement, ce qui est possible, soit il y a un manque de courage d'assumer le fait de dire on ne peut pas continuer à rester dans ces postures-là parce qu'il y a 50% de la population qui vit ici et qui n'a pas le même projet de société et qu'on doit le prendre en compte. Mais ils ont peur de la CCAT, donc ils ont peur, ils n'ont pas le courage d'assumer ça. Je ne sais pas quelle est l'analyse. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'État va devoir aller jusqu'au bout de cet exercice de sincérité. C'est-à-dire, est-ce que il faudra que l'État interroge l'UC pour dire, est-ce que vous allez revenir autour de la table avec ceux qui représentent la moitié de la population de Calédonie ? Et est-ce qu'on est d'accord pour parler de tout, y compris de ce sur quoi on n'est pas d'accord ?
Et on va se heurter dans un premier temps à leur calendrier, puisque tous les congrès indépendantistes se sont prévus à la mi-novembre et qu'on imagine que d'ici là, il n'y a rien qui va bouger. Pour reprendre les problèmes un par un, peut-être, le projet de loi sur le report, le projet de loi organique sur le report des élections provinciales a donc été adopté en première lecture par le Sénat. Il y avait un avis favorable des élus du Congrès. Vous vous y étiez favorable à ce report ? On rappelle qu'elle devait avoir lieu le 12 mai 2024, puis avant le 15 décembre, et maintenant avant fin novembre 2025. C'est quand même très long.
Oui, c'est très long, et puis c'est pas notre modèle démocratique. Moi, je crois que les élections, et que l'État aurait dû faire le nécessaire pour que ces élections aient lieu avant le 15 décembre. C'était déjà un premier report de 6 mois, et 6 mois, c'est acceptable. La réalité, c'est que ce report, il est rendu obligatoire parce que deux conditions n'ont pas été mises en œuvre par l'État, qui rendent en fait tout simplement impossible l'organisation de ces élections. Ces deux conditions, c'est quoi ? C'est un, d'avoir un corps électoral légal. Aujourd'hui, le corps électoral actuel, le Conseil d'État l'a considéré comme très gravement, portant atteinte très gravement au principe universel, enfin bon, donc en gros illégal. Donc ce corps électoral, il est illégal. Et en plus, les conditions de sécurité du scrutin ne sont pas assurées. On a vu ce qui s'est passé aux législatives avec un seul bulletin dans certains bureaux de vote, pas possibilité d'amener des assesseurs partout, de la triche qui a fait l'objet d'un recours. Bref, donc c'est pas possible que les élections provinciales se passent dans ces conditions-là. Donc ces deux conditions-là n'étant pas réunies, c'était pas possible de faire les élections le 15 décembre. Mais nous, on n'était pas demandeurs. Moi, je suis demandeuse que les élections aient lieu au moment où elles doivent avoir lieu. C'est le jeu démocratique, c'est la légitimité des élus qui est en jeu. Moi, j'ai pas envie d'être présidente de la province sud à vie sans que les électeurs aient donné leur avis. C'est pas comme ça que ça se passe.
Ça pose un vrai problème de légitimité pour les élus ou...
Ça pose un problème de légitimité surtout, enfin, ça pose un problème de légitimité dans les deux camps. Aujourd'hui, quel est le poids de la CCAT par rapport au PALIKA, par rapport à l'UC ? C'est quoi le poids ? On n'en sait rien, en fait.
Donc on est bien d'accord, les élections pour l'instant, ce serait avant le 30 novembre, et entre les deux, il faut dégeler le corps électoral. Alors on dit élargissement, ajustement, on sent qu'il y a un peu de prudence dans la sémantique, mais toujours est-il qu'il doit être ouvert. Et comment est-ce qu'on va faire ? Alors il y a un rétro-planning que vous avez présenté après avoir vu François-Noël Buffet, qui dit qu'en gros il faut un accord en mars sur le corps électoral pour pouvoir ensuite faire adopter le texte, réviser les listes électorales, etc.
Alors moi, je ne fais pas d'annonce sur le calendrier, je fais juste des calculs un peu administratifs et juridiques de savoir c'est quoi qu'on a comme échéance obligatoire pour pouvoir respecter la date de novembre 2025 pour faire les élections. Concrètement, on l'a vu, chaque fois qu'on fait des élections, il nous faut aller 3-4 mois pour pouvoir mettre en œuvre les listes électorales sur la base du corps électoral qui a été adopté, dont on ne connaît pas le contour aujourd'hui. Donc ces 4 mois-là, si on fait novembre moins 4 mois, ça fait juillet. Et puis, il y a, pour voter une loi constitutionnelle, des délais contraints, 6 mois entre telle chambre et telle chambre, 6 semaines, pardon, entre telle chambre et telle chambre, 4 semaines entre telle chambre et puis le congrès de Versailles, et puis le passage au gouvernement. Donc, en gros, 3 mois et demi pour passer une loi constitutionnelle entre le moment où elle passe au gouvernement et le moment où elle est votée au congrès de Versailles, tout ça étant, si tout le monde vote pareil, si tout se passe bien, etc. Donc, si on fait juillet moins 3 mois et demi, 4 mois, ça nous amène à mars-avril. Donc, ça veut dire que pour pouvoir avoir une réforme constitutionnelle en juillet et faire des élections en novembre, il faut qu'on soit mis d'accord en mars. Une fois que j'ai dit ça, principalement l'UC, mais enfin les indépendantistes globalement disent il faut un accord global sur tous les sujets. Alors moi, je veux bien, mais pour ça, il faut peut-être se mettre autour de la table, parce que ça, c'est un peu contradictoire de dire on veut un accord global, mais on ne veut pas parler avec les autres. Je ne sais pas très bien comment on fait, si ce n'est à être de mauvaise foi, et à une fois de plus, comme ils l'ont fait pendant 2 ans et demi avec Gérald Darmanin, gagner du temps pour, à la fin, espérer que les élections se fassent avec un corps électoral gelé, de force, parce qu'on n'aura plus d'autre choix. C'est ça, leur objectif. Enfin, il faut dire les choses à un moment donné. Donc, moi, je dis quoi? Je dis, écoutez, mettons-nous autour de la table. On est tous de bonne volonté. On avait travaillé avec les uns et les autres avant le 13 mai pour essayer de trouver un accord global. Remettons ça sur la table pour voir si tout le monde est encore en phase pour travailler de ces différents sujets-là. Et puis, à un moment donné, il faudra qu'on se donne une échéance. Il faudra qu'on se dise, si on n'est pas capable de tout régler, réglons, dans un premier temps, dans l'échéance qui nous est fixée, ce qu'on est capable de régler. Voilà, ça s'appelle du réalisme. J'espère qu'on sera capable de faire mieux que ça. Mais vous savez quoi, si on arrive à régler un minimum de choses qui nous permettent d'organiser des élections dans de bonnes conditions en novembre et d'avoir des élus légitimes après, on pourra rediscuter du reste avec les élus qui auront été réélus après.
Alors, on a beaucoup dit qu'on était près d'un accord global avant le 13 mai, fin avril. Franchement...
Le 10 mai.
Vous auriez dû signer à ce moment-là. Ouais. Franchement, est-ce qu'on peut discuter des mêmes thèmes, de la même manière, des mêmes choses après le 13 mai qu'avant? La donne a quand même complètement changé.
La donne a complètement changé. Et c'est le message que j'ai fait passer à l'État. C'est la première question que vous devriez poser au groupe politique en temps masqué, c'est qu'est-ce qui a changé? C'est est-ce que les groupes qui ont participé ou qui n'ont pas participé, mais qui ont connaissance de ces points d'équilibre, est-ce que leur position a évolué? Est-ce que ces points d'équilibre tiennent toujours? Et sinon, parce que je pense que les choses ont évolué de part et d'autre, on n'a pas le même regard aujourd'hui après que nos partenaires, ceux avec lesquels on a parlé pendant des semaines et des semaines, aient tout cassé, évidemment. Je pense que les uns et les autres n'ont pas le même regard. Donc, qu'est-ce qui a évolué? Voilà, je pense que la première question qui devrait se faire, même avant l'arrivée de Gérard Larcher et de Yaël Braun-Pivet, c'est ce que j'ai dit, moi, à mes interlocuteurs parisiens, c'est que si on veut avoir un peu d'efficacité quand ces hautes personnalités viendront, il faut avoir débroussé le chemin, savoir sur quoi on est capable de parler et qu'est-ce qui pose problème, de manière à ce que quand ils arrivent ici, on soit peut-être en capacité de rentrer dans le dur et qu'on ne reperde pas, parce que là, ils vont venir. Mais alors là, déjà, il va falloir se poser la question de bilatéral, trilatéral, demander à l'UC qui c'est qui est là, parce que qui c'est qui est légitime, est-ce que là, c'est... Vous savez quoi? On y a passé 2 ans et demi à faire ça. Ça suffit. Ça suffit. Soyons pragmatiques, rentrons dans le dur, là. C'est quoi les équilibres sur le corps électoral? Les équilibres possibles? C'est quoi les équilibres possibles sur l'organisation institutionnelle, sur l'organisation avec la France, sur l'organisation interne, sur le droit à l'autodétermination? C'est quoi les équilibres? Qui est d'accord sur ça? Qui n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui reste comme espace? Est-ce qu'on est capable de le régler ou pas? Et puis après, organisons nos désaccords. C'est-à-dire qu'on ne va pas être d'accord à la fin. Ils veulent l'indépendance, on ne la veut pas. Comment on fait pour organiser la Nouvelle-Calédonie de manière à ce que chacun soit bien dans le projet de société qu'il défend? C'est ça qu'il va falloir qu'on arrive à faire, mais il faut se poser à un moment donné.
Quels interlocuteurs, déjà, ça va être difficile, effectivement, à déterminer, aussi bien à l'UC qu'au FLNKS?
Je pense que ce ne sera plus le FLNKS, maintenant, ce sera les partis politiques qui constituent le FLNKS, sauf surprise d'ici l'arrivée de... Mais je pense que ce sera les partis politiques indépendantistes qui seront sollicités par le FLNKS.
Et du côté de l'État, qu'est-ce que vous attendez? Parce que ça reste toujours, a priori, le troisième partenaire. Est-ce qu'il doit être partie prenante de cet accord, encore une fois? Et alors, on lui a beaucoup reproché, et vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, sa partialité ces dernières années. Est-ce que c'est un État impartial que vous attendez, ou est-ce que c'est un État vraiment actif qui met en œuvre, peut-être, c'est ce qu'on attend de lui, le résultat des 3 référendums?
L'impartialité, elle avait du sens quand il s'agissait d'organiser les référendums pour savoir ce que pensait la population. L'impartialité d'aujourd'hui, elle a toujours du sens, mais l'impartialité, c'est de mettre en œuvre la décision du peuple. C'est pas, y a plus aujourd'hui un camp indépendantiste et un camp non indépendantiste comme il y avait avant. Évidemment, il reste y a des indépendantistes et il y a des non indépendantistes, mais les Calédoniens ont décidé 3 fois de rester français. Et donc, de la même manière que quand les Français décident d'un président de la République, même si à la fin le président de la République il gagne 51-49, ben vous savez quoi ? Il a gagné. C'est le président de la République. Et il n'y a personne qui dit « Non, mais en fait, il reste encore... » Ben non, les autres, ils sont... Donc ça peut pas... On ne peut pas dire l'État est partial quand il défend le maintien de la Nouvelle-Calédonie à la France. Non, aujourd'hui, l'État n'est pas partial parce qu'il défend le maintien de la Nouvelle-Calédonie à la France. L'État peut être et est impartial quand il respecte le camp indépendantiste. Le camp indépendantiste veut toujours l'indépendance, voudra toujours l'indépendance. Personne ne leur enlève ça. Ils veulent organiser la manière dont ils espèrent un jour accéder à l'indépendance. Et l'État doit, de manière proactive et de manière neutre, gérer cette revendication, mais pas de dire aujourd'hui aux indépendantistes « Oui, votre revendication doit être mise en œuvre comme elle l'était avant. » Non, c'est faux.
Et est-ce qu'il aura le courage de le faire ?
Je ne sais pas. Vous savez quoi ? Je ne sais pas ce que c'est que l'État aujourd'hui. L'État, c'est quoi ? C'est le président de la République, c'est le Premier ministre, c'est le ministre des Outre-mer, c'est la présidente de l'Assemblée, le président du Sénat, c'est Bercy, j'en sais rien. Je crois qu'on a besoin, les Calédoniens, vous m'avez demandé, et j'ai répondu à côté pour l'instant, qu'est-ce que j'attends de l'État ? J'attends un calendrier, une méthode et un positionnement. Parce que l'État n'est pas seulement... Il y a un moment où l'État n'est pas seulement un arbitre entre deux camps. C'est fini, ça. On a aujourd'hui des puissances étrangères qui attaquent la France via la Nouvelle-Calédonie. La France, elle a un rôle à jouer. Elle n'est pas simplement arbitre. La France, elle a aujourd'hui un territoire, une partie d'elle-même, qui a décidé de rester française, qu'elle a besoin de défendre. La France, elle doit se positionner là-dessus. C'est la moindre des choses. Donc la France, elle doit dire ce qu'elle veut. Ce qu'elle attend, c'est quoi sa position à elle. Elle doit organiser une méthode et un calendrier pour que les discussions se fassent et qu'on arrive à trouver une solution. Et elle doit, en parallèle, reconstruire. L'État doit mettre les moyens et pas, encore une fois, avec des engagements qui ne sont pas tenus, des prêts AFD garantis par l'État. Mais pardon, mais qui est capable d'emprunter aujourd'hui ? Même la province sud, qui était une des collectivités les plus saines avec quelques communes, elle peut emprunter 500 millions d'euros. Hein. Aujourd'hui, le total des emprunts de la province sud sur les 20 dernières années, c'est 200 millions d'euros. Ça, c'est notre encours d'emprunt. On ne va pas emprunter 500 millions d'euros de plus. Hein. Donc, en fait, ce truc-là n'existe pas. Ce n'est pas sérieux. Je voyais une annonce comme quoi la France donne 100 millions au Liban. Mais on donne au Liban, on prête à la Nouvelle-Calédonie. Mais on est français. Enfin, donc, à un moment donné, l'État doit être sérieux avec la Nouvelle-Calédonie.
Donc, l'avenue de... Cette mission de dialogue et de concertation qui est quand même conduite parmi les plus hauts personnages de l'État, ça peut être l'occasion évidemment de passer ces messages.
J'espère.
J'imagine que vous les passez également régulièrement aux gens qui sont à Paris. Avant de terminer cette interview, il y a 2 points que je veux voir avec vous. Le premier, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de la loi de finances qui est en cours d'examen, ou est-ce que vraiment là-dessus c'est fini, c'est mort, il n'y aura rien ?
Ah non, 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 on en attend énormément parce que concrètement c'est là que ça va se régler pour 2025. Nicolas Metzdor fait un travail remarquable à l'Assemblée. Il l'a fait là sur... Là, c'est la partie recette. Et puis, dans 2 semaines, c'est la partie dépense. Sur la partie recette, en gros, c'est tous les dispositifs de défiscalisation qui peuvent servir à la Nouvelle-Calédonie. Comment on peut se servir des dispositifs de défiscalisation pour aider, pour mettre des fonds, en gros, en Nouvelle-Calédonie. Donc, Nicolas Metzdor a obtenu 3 amendements cette nuit. Je regrette d'ailleurs qu'Emmanuel Tchibaou n'ait pas mis les pieds à l'Assemblée aujourd'hui. On parle de la Nouvelle-Calédonie, on en a parlé toute la journée. C'est bien d'aller à Paris pour dire on fait le plan quinquennal, et puis quand le jour où il faut défendre les choses, il n'est pas là. Bon, c'est dommage, c'est comme ça. Par contre, dans les médias de gauche, etc., il est très présent. Et dans 2 semaines, on aura les dépenses. Là, ça va être un énorme travail. Nicolas Metzdor travaille sur des amendements pour venir au secours de la Nouvelle-Calédonie, au secours des entreprises, au secours des collectivités, et on attend énormément de ce projet de loi de finances. C'est notre bouffée d'air.
Dernier point, et malheureusement il ne restera plus beaucoup de temps, c'est la filière nickel. Ouais. On n'en parle plus, on sait qu'elle est dans un état épouvantable, catastrophique, que 2 usines sur 3 sont à l'arrêt, la troisième va pas très fort. Prenez Ressources, il y a un petit espoir, il y a un repreneur qui est intéressé, c'est sérieux?
Oui, il y a un gros espoir, il y a un repreneur qui est intéressé sérieusement par cette usine, qui fonctionnait bien, hein. Avant le 13 mai, on était arrivé à des résultats très 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 encourageants, on a des équipes là-bas qui font vraiment un travail extraordinaire. Ce repreneur, il est toujours intéressé, mais il veut voir l'usine marcher. Et l'usine, elle ne marchera que si la ligne électrique est remise. Il y a la question du passage sur la route qui peut être contournée, mais en tout cas, la question de la ligne électrique, ça ne peut pas être contourné. Donc il y a un travail qui est mené en parallèle aujourd'hui par l'entreprise, par l'État et par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Christopher Gigès là-dessus hier, qui travaille avec Enercal, à voir comment on peut mettre en place une solution alternative. Et d'ici 2 semaines, on aura sans doute des solutions à proposer pour le redémarrage de la ligne électrique. Et ça, pour moi, c'est une vraie source d'espoir. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est réglé, parce qu'il ne faut pas que le repreneur décroche. Il faut qu'au final, on arrive à mettre en place la solution pour remettre en route l'électricité. Il faut qu'au final, le repreneur qui voit l'usine tourner ait toujours envie de la reprendre. Bref, il y a tout un tas d'inconnus, mais... En tout cas, on met tous beaucoup d'énergie dans cette reprise. C'est 1300 personnes, 1300 emplois directs, quelques centaines d'emplois indirects, enfin de sous-traitants, plus des milliers d'emplois indirects. Ce serait là aussi une bouffée d'air économique et quelques milliers d'emplois qui seraient plus au chômage ou au chômage partiel.
On a besoin de bonnes nouvelles pour l'instant.
Exactement.
Encore un mot sur l'ordre public, peut-être. Il reste le problème de Saint-Louis. Pour le reste, vous avez l'impression que... Ça y est, il y a un apaisement, on revient à peu près à une situation normale où vous demandez encore à l'État, là aussi, de maintenir les forces et puis d'être extrêmement vigilant.
Je considère qu'on n'est pas revenu à une situation normale parce qu'on a quand même encore des endroits dans lesquels, à Dambéa, on entend encore des grenades péter toutes les nuits. Hein, donc on ne peut pas considérer qu'on est revenu à la normale. On est dans une situation qu'on peut considérer comme acceptable parce qu'il y a beaucoup de forces de l'ordre. On sait qu'il y en avait énormément pour le 24 septembre, qu'il y en a moins, et c'est normal. Mais par contre, on ne peut pas imaginer aujourd'hui redescendre au niveau qu'on avait le 13 mai, parce que la situation n'est pas équilibrée et n'est pas pacifiée, c'est pas la réalité. Donc aujourd'hui, je le dis, l'État ne doit pas enlever trop de force. D'ailleurs, le haut-commissaire... défend très bien la Nouvelle-Calédonie, et sur le plan sécuritaire et sur le plan économique auprès de mes amis de Bercy. Heureusement qu'on a aujourd'hui un haut-commissariat qui nous accompagne. Mais la situation, on ne peut pas considérer qu'elle est normale.
Sonia Baquès, présidente de la province Sud, merci d'accepter notre invitation.